Chapitre 23. Ce n'est pas parce que nous ne les voyons pas qu'elles n'existent pas. Je parle des populations de l'extérieur, des hors-sites. En nous coupant d'elles, nous avons peut-être commis notre plus grande faute, voire notre plus grand crime. Nous nous sommes proclamés justes ou dignes d'être sauvés, et nous avons tranché nos liens avec un cynisme que nous avons affublé de noms aussi dérisoires que « principe de précaution »,« sécurité » ou encore « responsabilité ». Le temps est sans doute venu d'examiner notre conscience, si tant est que ce mot signifie encore quelque chose aujourd'hui, d'ouvrir nos murs, de recueillir ces hommes, ces femmes et ces enfants que nous avons longtemps refusé de contempler. À moins encore que, par l'un de ces retournements dont la vie se délecte, ce soit eux qui n'aient l'extrême bonté de nous accueillir. Moritz Bergamo, plaidoyer pour une humanité réunie. Cité unifiée de Nilopa. Ganesh Parvati? Ganesh s'immobilisa. La voix qui venait de résonner en lui était faible, mais audible. Ava l'interrogea du regard. Je suis Mina, votre gémine. Je vous reçois. Votre point sur la carte m'indique que vous êtes presque sorti du périmètre de Paris. Encore 1 kilomètre et vous serez hors du filtre protecteur. Vous serez exposé aux UV, aux radiations et aux autres pollutions. Vous cherchez à vous suicider? Si j'avais voulu me tuer, j'aurais sans doute choisi un moyen plus discret. Vous me surveillez de près, Big Sister. C'est mon boulot. Vous pouvez perdre les pédales à tout moment, comme la grande majorité des fouineurs. Si vous ne vouliez pas être tracé 24 heures sur 24, il ne fallait pas vous faire greffer de biopuces dans le cortex. Si je sors du périmètre sécurisé, mon point cessera de briller sur votre carte, et je disparaîtrai de votre univers. Ne plaisantez pas avec ça. Continuez dans cette direction, et je vais être obligé d'alerter votre chef de groupe. Vous risquez le déclassement. Je suppose que vous n'aimeriez pas vous retrouver à gratter de la paperasse dans un bureau jusqu'à la fin de votre carrière. Vous savez parler aux hommes, vous. Ça fait partie de mes charmes. Que faites-vous si près du périmètre? Je mène l'enquête en bon fouineur. Je vous rappelle que les ombres tuent entre 100 et 2000 personnes à chaque passage et que mon boulot, à moi, c'est d'essayer de les en empêcher. Vous avez une piste? Peut-être. Vous pouvez m'en parler? Ganesh se tut. Il croisa le regard inquiet d'Ava, immobile quelques mètres plus loin. Le vent jouait dans ses cheveux blonds. Il la trouva très jolie dans sa tenue noire. Jolie, mais un peu trop citadine pour le terrain vague qui s'étendait autour d'eux. « J'ai des choses importantes à vous dire, » reprit la gémine. « Je vous écoute. » « Pas maintenant. Je vous rappelle dès que possible, à condition bien entendu que vous restiez à l'intérieur du périmètre protégé. Je peux rien vous promettre. » La gémine marqua un temps de silence. « Faites attention à vous, Ganesh. On vous surveille en haut lieu. » La communication s'interrompit. Comme la grande majorité de mes collègues, je n'ai jamais fait confiance aux gémines, les permanentes du central qui nous servaient à la fois de correspondantes et de confidentes. Le secret étant l'une des clés du succès, je craignais que ma gémine n'ébruite les renseignements que j'aurais pu lui confier. Il existait une autre raison, moins avouable. Tout élément nouveau étant aussitôt ajouté à la base de données, chaque fouineur vivait dans la crainte permanente d'être doublé par l'un de ses confrères. C'est humain. On n'aime pas que son travail ou son intelligence profite à quelqu'un d'autre. Et le corps des fouineurs se serait probablement montré plus efficace si ses membres avaient appris à collaborer sans arrière-pensée. À vrai dire, nous menions une vie tellement solitaire que nous pouvions facilement tomber amoureux de nos correspondantes du central. Enfin, pas d'elles, parce qu'elles restaient anonymes, mais de leur voix. J'étais déçu quand ce n'était pas ma gémine personnelle qui me contactait, et j'essayais de la retenir le plus longtemps possible quand j'avais la bonne fortune de tomber sur elle, même si je ne lui révélais rien d'important. J'ai eu l'occasion de rencontrer dans une soirée une fille du nom de Mina, plutôt jolie, un peu perturbée. Elle m'a avoué à partir du 4e verre et du 2e neuronano qu'elle appartenait au corps des gémines, qu'on lui interdisait de communiquer avec son protégé, mais qu'il avait suffi de 2 ou 3 échanges pour qu'elle tombe follement amoureuse de lui. Syndrome de l'ange gardien, aurait diagnostiqué n'importe quel psychologue. Les gémines étaient nos confidentes, nos consciences, celles qui nous réveillaient en pleine nuit quand un crime était commis, qui nous mettaient en garde quand nous outrepassions les bornes, qui s'invitaient dans nos intimités et brisaient nos solitudes. « À qui tu parlais ?» demanda Ava. « Une gémine. Qu'est-ce qu'elle voulait ?» Nous avertir que nous approchions dangereusement des limites du périmètre sécurisé. En quoi ça la regarde? Les gémines nous localisent en permanence grâce aux biopuces. Pour elles, nous sommes des points lumineux sur une carte transparente de la cité unifiée. Comment savent-elles que ce point lumineux est le tien? Je suppose qu'il leur suffit de cliquer dessus. Il s'éteindra si je sors du périmètre. Ava désigna le terrain vague d'un large geste du bras. Je déteste cet endroit. Qu'est-ce qu'on est venu foutre là? Plus ça va, et plus je suis convaincu que les ombres viennent du pays vague. Je cherche leur porte d'entrée. Ava fixa Ganesh d'un air exaspéré. Elle lui en voulait de l'avoir conduite aux confins de la cité, et regrettait de l'avoir suivie. Avec sa jupe courte et ses chaussures à talons, elle se sentait aussi à l'aise ici qu'un animal sauvage dans un immeuble de Paris. S'il y avait une faille dans le système de surveillance, les détecteurs signaleraient aussitôt les intrus, cracha-t-elle. Et puis pourquoi ici ? J'étudie les probabilités. Je procède par élimination. Si, comme je le pense, Théo a cherché à nous aiguiller vers l'extérieur. Alors, j'essaie de trouver une logique cachée dans les déplacements des ombres. Leur dernier passage me donne à penser qu'elles sont arrivées et sont reparties par là. Simple question de géométrie. Rien ne dit qu'elles utiliseront le même chemin la prochaine fois. Très juste. Je veux seulement vérifier qu'elles n'ont pas laissé de traces. Ava frissonna et leva des yeux inquiets vers le ciel. Les nuages noirs et lourds qui se rassemblaient au-dessus d'eux pouvaient s'éventrer à tout moment, et elle n'avait prévu ni parapluie ni imperméable. « C'est la première fois que je me balade si loin du centre, » murmura-t-elle. « Tu es bien allé à Londres ou à New York, non ?»« Plusieurs fois, mais jamais dans une bordure. »
On donnait plusieurs noms au périmètre de sécurité des cités. Bordure, ceinture, zone, sas, bande, purgatoire et bien d'autres. Entre les dernières habitations et la barrière de sécurité proprement dite, le terrain vague s'étendait sur une distance d'environ 20 km, couvert de barbelés, parsemé de fosses emplies d'eau ou de pieux métalliques, hérissés de monticules de pierre et de gravats coiffés d'herbes folles. L'intrus qui parvenait à déjouer les surveillances électroniques et satellitaires devaient encore franchir ces 20 km où ils avaient toutes les chances de se prendre dans les barbelés, de s'empaler sur un pieu ou de se noyer dans l'eau croupie des fosses. Si par miracle, ils réussissaient à parcourir la moitié du chemin, les drones alertés par les satellites décollaient et se mettaient en chasse. Ça faisait plus de 60 ans qu'aucun hors-site n'était parvenu à s'introduire dans la cité unifiée de Nilopa. Je peux vous assurer en tout cas qu'on ne se sentait pas à l'aise dans la bordure. Ce moutonnement grisâtre et parcouru d'éclats métalliques qui s'étendait à perte de vue avait quelque chose de maléfique et donnait un petit aperçu de ce qui nous attendait à l'extérieur, dans le pays vague. L'enfer !
Ils évoluaient depuis plus d'une heure entre les collines coiffées d'herbes folles et hérissées de pieux. Le vent sifflant jouait avec les gouttes de pluie encore éparses. Contact avec la base de données de plus en plus faible. Signal erratique. Je perds le contact avec le central et la base, déclara Ganesh. Ma gémine doit être folle. Mon point lumineux a sans doute disparu de sa carte. Ce coin est vraiment sinistre. Tu y es déjà venu ? Une seule fois avant d'intégrer le corps des fouineurs. On ne peut pas se satisfaire du décor, on en apprend davantage dans les coulisses. Qu'est-ce que tu as appris ? D'abord que le système des cités unifiées repose sur l'enfermement, sur la peur. Ava exprima son désaccord d'un haussement de sourcils et d'un claquement de langue. « T'en as de bonnes, toi. On serait tous morts si on n'était pas protégés par les filtres. Il y a pourtant de la vie à l'extérieur. Les hors-sites ont déjoué tous les pronostics. Non seulement ils ont survécu, mais ils se sont multipliés. Et t'appelles ça vivre ?» Les mots se bousculèrent dans la gorge de Ganesh. Jusqu'alors, il n'était jamais parvenu à exprimer clairement les sensations qu'il éprouvait depuis sa tendre enfance. On vit plus vieux à l'intérieur des cités, on mange à sa faim, nos logements sont confortables, on est en bonne santé, on ne souffre pas du réchauffement ni de la pollution. Mais eux, dans le pays vague, ils ne sont pas condamnés à rester à l'intérieur d'un périmètre protégé. Ils gardent leur entière liberté de mouvement et, même s'ils meurent plus tôt que nous, notre existence est-elle vraiment préférable à la leur ? Décontenancé par la tirade de son équipier, Ava tira d'un geste nerveux sur sa jupe que, décidément, elle avait choisie trop courte. Elle se sentait pratiquement nue dans cet environnement sinistre. « Pourquoi tu n'es jamais passé de l'autre côté, si tu penses qu'on y est si bien ? » demanda-t-elle avec hargne. « J'en ai eu l'envie, mais il faut du courage pour briser les habitudes. Et j'en ai manqué. Et puis je pensais que devenir fouineur me donnerait des clés, qu'au moins je serais utile à quelque chose. On ferait mieux de retourner dans le périmètre. Tu viens ?» Sans attendre la réponse de Ganesh, Ava rebroussa chemin et s'enfonça dans les herbes folles et les ronces, semant derrière elle des petits cris et des jurons. « Je ne vois pas quels indices on pourrait trouver dans ce... » Un grondement sourd, puis son hurlement couvrir la fin de sa phrase. Ganesh la vit disparaître tout à coup, comme happé par une invisible bouche. « Ava !» D'autres grondements retentirent. La terre trembla tout autour de lui. Il perdit l'équilibre, chercha à se raccrocher à une prise, agrippa la branche d'un buisson. Le sol s'ouvrit sous ses pieds. Il tomba dans la faille. La branche lui écorcha la main, mais ne réussit pas à enrayer sa chute. Il se reçut plusieurs mètres plus bas sur une surface dure. Le choc lui coupa le souffle et lui meurtrit les os. Il crut que sa cheville gauche s'était brisée, puis il parvint à la remuer et constata qu'elle souffrait seulement du choc. Le temps que ses yeux s'habituent à la pénombre, il s'aperçut qu'il avait atterri dans un tunnel. La lumière qui s'infiltrait par la faille éclairait la voûte et les parois étayées par des poteaux de béton. Il était tombé d'une dizaine de mètres, largement de quoi se fracturer les vertèbres. La couche de terre meuble sur laquelle il reposait avait amorti sa chute. L'air, imprégné d'une âpre odeur de moisissure, lui irritait les narines et la gorge. « Ava ?» Aucune réponse. « Ava ?» « Je suis là !» Il se dirigea vers son équipière qui gisait un peu plus loin, derrière un éboulis au milieu de volutes de poussière. Il se pencha sur elle. « Rien de cassé ?»«
J'ai mal partout, mais je peux bouger. »
Elle grimaça.
« On n'y voit que dalle là-dedans !»
Le terrain s'est affaissé. La bordure est un vrai gruyère. J'ai lu un truc là-dessus. Les ouvriers qui ont travaillé dans la ceinture de la cité ont creusé des centaines de galeries pour éviter d'être exposés aux radiations. Comment on fait pour sortir de là ?
J'en sais rien. Peut-être qu'on peut remonter ? Ça m'étonnerait. Les parois m'ont l'air aussi friables que de la neige fraîche. Tu peux marcher ?
Il l'aida à se relever. Elle fit quelques pas en boitillant. Son bas s'était déchiré au niveau du genou, d'où perlaient quelques gouttes de sang.
Ça devrait aller, répondit-elle. Suivons la galerie, elle finira bien par nous conduire quelque part.
Ta biopus ne dit plus rien ?
Elle est muette, coupée du réseau.
Ils progressèrent dans une obscurité de plus en plus dense, Ava s'appuyant sur l'épaule de Ganesh.
« Me lâche pas surtout !» souffla-t-elle.
« Pas de danger, vu comment tu m'agrippes.
Va surtout pas t'imaginer des choses !» Des frottements, des claquements résonnèrent derrière eux. Un déclic retentit et un faisceau lumineux perfora les ténèbres.
« Bougez pas, vous deux !» fit une voix masculine. « Une arme est braquée sur vous !»
Le cliquetis d'un cran de sûreté confirma les propos de leur invisible interlocuteur.
« D'accord, on ne bouge pas !»
Ganesh écarta les bras.
« Mais arrêtez de nous balancer le faisceau de votre lampe dans les yeux !»«
Qui êtes-vous ? Que faites-vous là ?
Ce serait plutôt à moi de vous poser ces questions !»
Vous êtes flic ?
Nous ? On a une allure de flic ? Qu'est-ce que vous foutez dans la bordure ?
On se promenait.
Te fous pas de ma gueule !
Pas la peine de se faire chier avec ces enfoirés !
Intervint une deuxième voix.
Y a qu'à les flinguer !
Du calme, répliqua la première voix. J'aimerais d'abord savoir ce que ces deux-là fichent dans le secteur. Les citadins n'ont pas l'habitude de s'aventurer dans la bordure.
Moi ça me plaît pas, et je dis qu'on doit s'en débarrasser tout de suite. « Nom de Dieu, Scott, essaie de faire marcher le peu qui te reste de cervelle. Si tu les flingues, tu sauras jamais s'ils ne sont que les premiers d'une longue liste, si la cité n'a pas décidé de nous éliminer. Faudrait qu'elle sache qu'on existe.
Les satellites sont peut-être capables de détecter les mouvements sous terre, les sources de chaleur. On a peut-être été repérés.
Faut qu'on les garde vivants pour les interroger.
D'accord, je m'en charge.
Le rayon de la lampe se balada tour à tour sur Ganesh et Ava.
J'ai dit interroger Scott, pas massacrer.
Je me souviens du jour où on a perdu la trace de Ganesh. Nous étions en train de discuter dans le bureau du chef de groupe quand quelqu'un est venu nous annoncer que, selon les Gémines, le point lumineux de Ganesh Parvati s'était subitement éteint. Il n'y avait que deux hypothèses pour expliquer sa disparition. Soit il était mort, soit il était sorti du périmètre de sécurité. J'avoue que j'ai penché tout de suite pour la première. Des tas de cinglés se promenaient dans la cité unifiée et tuaient sans raison des passants dans les rues ou les transports en commun. Peut-être aussi que Ganesh s'était suicidé. Un geste de plus en plus fréquent chez les fouineurs, soumis à une pression incessante, infernale. Certains d'entre eux ne supportaient pas leur biopuce analytique, cette conscience supplémentaire qui les traquait jusque dans leur sommeil. J'ai pas cru sur le moment qu'ils soient sortis du périmètre de sécurité. J'en voyais pas l'intérêt. Et puis personne n'aimait s'aventurer dans la zone lugubre qui ceinturait les cités. Mais les origines asiatiques de Ganesh, et surtout, sa volonté inébranlable d'aller au fond des choses, le différenciaient sans doute du commun des fouineurs.
Vous avez le choix. Soit vous parlez tout de suite, soit vous vous faites prier, mais ce sera nettement plus douloureux.
L'homme avait posé son antique pistolet sur une pierre. Ava et Ganesh avaient été conduits dans une salle souterraine, probablement la cave d'une ancienne habitation, et attachés avec des cordes à des barreaux scellés dans la paroi de béton. Personne n'avait songé à fouiller Ganesh. Le fouineur avait guetté une opportunité de se servir de son taz en vain. Il avait craint de mettre Ava diminuée en danger.
Je vous l'ai déjà dit, on voulait seulement visiter le terrain vague.
Il avait tenté d'injecter une dose massive de conviction dans sa voix. Il ne distinguait toujours pas ses interlocuteurs, éblouis par le faisceau de la lampe.
Marrant, mais je te crois pas, rétorqua l'un d'eux. Les citadins restent soigneusement à l'écart de la bordure. Ils la trouvent déprimante.
On voulait voir si la réalité correspondait à la rumeur.
Tu me laisses pas le choix. Je vais commencer par ta copine. Je lui prélève un bout de peau chaque fois que ta réponse ne me convient pas. Je répète, qu'est-ce que vous foutiez sur la bordure? Faut me croire, merde!
Protesta Ganesh.
Mauvaise réponse.
La lame rouillée d'un couteau se rapprocha du bras d'Ava et lui entailla la peau. Elle poussa un gémissement.
D'accord, lâche-la! Glapit Ganesh. Je suis un fouineur. Je mène une enquête sur les ombres. Vous avez entendu parler des ombres? Un salopard de fouineur. Tu vois, Matt, je m'étais pas gouré. La fille me botte. J'ai envie de jouer un peu avec elle avant de leur régler leur compte.
Attends, Scott.
L'un des deux hommes s'avança vers Ganesh. Une partie de son visage émergea dans la lumière de la lampe. L'étroitesse de ses yeux plissés surprit Ganesh.
C'est quoi cette histoire d'ombre?
Ganesh s'appliqua à bien choisir ses mots. L'occasion de convaincre les deux hommes ne se représenterait peut-être jamais.
Des tueurs qui font des milliers de morts à chacun de leurs passages.
Quel rapport avec la bordure?
Après avoir étudié leurs déplacements, j'en ai déduit qu'ils venaient de l'extérieur et qu'ils traversaient la bordure.
L'homme marqua un temps de silence.
Soit ils passent par la surface et les satellites les auraient repérés, soit ils passent par les souterrains.
Et nous les aurions repérés, reprit-il. Rien ne nous échappe sous terre, pas même le tremblement d'un verre. Tu vois bien qu'ils cherchent à nous embrouiller, Matt,
intervint son compère.
Du calme, Scott. J'ai entendu parler de cette histoire d'ombre, par ceux qui sont allés là-haut. Elles ont fait plus de 100 000 morts en moins de 2 ans, précisa Ganesh. Et leurs attaques sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus mortelles.
Ça me gêne pas qu'ils crèvent dans les cités,
ricana celui qui s'appelait Scott. Ganesh estima le moment propice pour enfoncer le clou.
Je sais pas qui vous êtes, ni d'où vous venez, mais personne n'est à l'abri des ombres. Elles peuvent s'en prendre à vous, n'importe où, n'importe quand. Un de mes amis fouineurs semblait avoir percé leur secret. Il est mort en me laissant ce maigre indice. NTHC. HC comme hors cité. Elle ne viendrait pas de l'intérieur de la cité, selon lui, mais du pays vague. Après analyse de leur déplacement, ma base de données m'a envoyé dans cette direction.
On a eu une centaine de morts l'autre jour, murmura l'homme du nom de Matt. On a pensé à un virus foudroyant.
100 morts? Vous êtes combien là-dessous? Ça te regarde pas, mec !
Vitupéra Scott. Si, comme je le pense, les ombres sont responsables de ces 100 morts, on a tout intérêt à collaborer.
Pour que t'ailles tout raconter à tes copains flics et fouineurs ?
Seulement pour que vous restiez en vie. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons été chassés du pays vague, il y a de cela... commença Matt.
Le raconte rien !
Coupa Scott. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Le ton de Matt s'était fait péremptoire. Les autres voulaient pas de nous. Nous souffrons d'une maladie qu'on appelle la nucléose. Une mutation qui nous déforme peu à peu. Nous avons décidé de vivre dans l'obscurité. Les autres, dans le pays hors site, ne supportent pas l'image que nous leur renvoyons. Notre maladie n'est pourtant ni contagieuse ni mortelle. Nous l'avons héritée de nos parents, qui l'avaient eux-mêmes héritée de leurs parents. Nous avons trouvé refuge dans les galeries de la bordure. Nous étions certains que les autres ne nous poursuivraient pas ici. Ils sont trop la trouille des milices et des engins volants de la cité. Il nous suffit de vivre à l'abri de la surveillance satellite pour ne pas attirer l'attention. Notre communauté compte désormais plus de 10 000 membres. De quoi vivez-vous ?
De tout ce qui pousse sous le sol. Racines, champignons, et aussi des animaux que nous avons emmenés avec nous et qui se sont eux aussi adaptés à la vie souterraine.
Nous sommes en permanence à l'écoute des vibrations. Nous perdons la vue, mais notre ouïe et notre sensibilité au mouvement de la Terre se développent. Nous vous avons détecté bien avant que vous ne parveniez jusqu'ici et nous vous avons suivi.
Pourquoi avez-vous besoin de lampes ?
Nous voyons parfaitement dans l'obscurité, mais nous nous en servons pour aveugler et déloger les intrus. Nous possédons un générateur et une réserve d'essence pour recharger les batteries.
Comment connaissez-vous les ombres ?
Quelques-uns d'entre nous, de jeunes cinglés, sont allés dans la cité.
Personne ne les a repérés ?
Ils avaient revêtu ces tenues qu'utilisent les chrétiens fondamentalistes de la Troisième Réforme et qui ne laissent paraître qu'une minuscule partie du visage. Là-bas, ils ont entendu parler des ombres. Des fouineurs aussi. Paraît que ce sont des mutants, qu'ils ont un deuxième cerveau.
Ganesh lâcha un petit rire malgré lui.
Rien à voir avec une mutation. Il s'agit seulement d'une puce biotechnologique qu'on nous greffe dans le cortex. Elle est reliée en permanence à une base de données.
Qu'est-ce qu'on fait d'eux, Matt ?
S'impatienta Scott. On les emmène dans les galeries où les nôtres sont morts. Faut essayer d'en savoir plus sur cette histoire d'ombre.
Et après ? Si on les laisse repartir, on recevra très vite la visite de l'armée de la cité.
Chaque chose en son temps, trancha Matt.
Ni nos yeux, ni nos oreilles ne pouvaient détecter les populations souterraines de la bordure. Et pourtant, elles proliféraient comme des insectes au pied du mur de la cité.
Il y a de la méchanceté dans le cœur de la bonté, et de la bonté dans le cœur de la méchanceté. Proverbe de Villebanne. Pays hors site.
Pour avoir un temps navigué sur ces eaux, je peux vous affirmer que Rhône n'était pas un long fleuve tranquille. Ses courants étaient parfois si violents qu'ils étaient capables de renverser comme des fétus de paille des bateaux de plus de 30 mètres de long. Et puis, on ne savait jamais quand un orage allait vous tomber dessus et transformer Rhône en un véritable enfer. Il se couvrait tout à coup d'un tas d'objets flottants qui, avec la force des vagues, devenaient des béliers terrifiants. Mais le fleuve étant le plus court chemin entre le nord et le sud, un certain nombre de navigateurs acceptaient de le défier, espérant gagner du temps en risquant leur vie.
La flottille, composée d'une cinquantaine de radeaux, filait bon train sur les courants tumultueux de Rhône. Deux lunes admiraient la précision des pilotes, qui évitaient avec une adresse remarquable les obstacles dressés à la surface de l'eau, rochers, branches, piles affaissées d'anciens ponts. Chaque embarcation maintenait avec sa suivante un intervalle d'une dizaine de mètres. Les quatre invités avaient été répartis sur deux radeaux, de Lune et Naya sur celui de Louvik, Kolp et Yosp sur celui d'un dénommé Kans, qui n'avait visiblement pas apprécié d'avoir été désigné par le chef du clan pour embarquer deux passagers supplémentaires. Louvik et sa femme Lislo avaient deux enfants, Gunt, un garçon d'une dizaine d'années, et Han, une fille de 6 ans. Leur radeau placé en tête de la flottille était piloté par une jeune femme du nom de Marla, la sœur cadette de Louvik, mine revêche et regard farouche. Lislo raconta à Delune et Naya l'histoire du clan des Bartlos, les Imberbes en allemand, qui avait compté plus de 10 000 membres, répartis sur une douzaine de sites proches les uns des autres sur les bords de Rhin, avant d'être décimés par les cavaliers. Leurs serres agricoles, leurs élevages et leurs réserves de bois leur avaient permis de survivre aux hivers interminables, aux pluies de glace, aux températures de moins 30 degrés. Ils avaient subi les assauts réguliers de clans pillards affamés, mais, grâce à leur organisation et leur discipline, ils les avaient repoussés sans grande difficulté et n'avaient déploré que quelques pertes. Puis les Teufel avaient surgi, rasant 8 sites sur les 12 et massacrant tous leurs habitants. À la troisième attaque, Louvic avait proposé aux survivants de s'exiler et de s'établir dans le sud, sur les bords de la mer Méditerranée. Seuls 300 d'entre eux l'avaient écouté. Il l'avait proclamé chef de clan et avait construit les radeaux avant que les Teufel surgissent de nouveau, brûlant les derniers sites et ne laissant pas un seul survivant. Seuls les Barthlos, guidés par Louvic sur les eaux du Rhin, avaient échappé au massacre. Tempêtes, inondations, avaries, attaques s'étaient succédées, les ralentissant dans leur progression. Ils avaient mis pratiquement 6 mois à gagner Rhône, évitant les grandes agglomérations, sujettes aux guerres de clans et vivant en autarcie totale. Pour ne pas naviguer la nuit, ils choisissaient des emplacements déserts à la tombée du crépuscule. La pêche, la chasse, la cueillette leur permettaient de reconstituer leurs réserves de nourriture. Ils répartissaient les vivres selon les besoins de chaque famille. Ils ne disposaient pas d'armes à feu, mais de poignards et d'arcs, qu'ils maniaient avec une grande dextérité, et utilisaient également des pics aux pointes métalliques qui leur servaient à combattre les bêtes dangereuses, sangliers, loups ou ours. Même s'ils ne la comprenaient pas, Louvic ponctuait les paroles de son épouse de hochements de tête et de grognements d'approbation. Liselot proposa des vêtements à Naya, une tunique et un pantalon large d'un cuir assez souple, qui offrait une grande liberté de mouvement. Elle s'habilla à l'intérieur de l'abri central et récupéra le pistolet et le chargeur avant de rendre sa veste à Delune. « C'est ce genre de solidarité dont auraient besoin toutes les populations du pays hors site, » murmura-t-il. Naya et lui se trouvaient seuls à l'avant du radeau. Louvic et Liselot s'étaient retirés dans leur cabine avec leurs enfants. La tête de Marla, installée sur la partie surélevée de la proue, dépassait du toit de la construction centrale. Dans le courant régulier, la pilote n'avait pas hissé la voile d'appoint qui faisaillait le long du mât. Les rayons du soleil se glissaient par les trouées des nuages et s'échouaient en flaques rouillées et frissonnantes sur l'eau hérissée du fleuve. Seules les taches brunâtres de buissons rampants brisaient l'uniformité grisâtre de la zone désertique, minérale, qu'ils traversaient. « Je me demande pourquoi Yosp a dit qu'il pouvait devenir méchant à certains moments, » murmura Naya. « Il ne se trompe jamais. Il semble pourtant inoffensif. Nous ne les avons pas encore vus en toutes circonstances, » objecta Delune. « Les pollutions engendrent parfois des comportements surprenants, aberrants. Ça te fait pas peur ?» Il la fixa avec un sourire. « Tant de choses pourraient me faire peur que je ne parviens pas à choisir. » Elle se détourna, incapable de soutenir son regard. J'espère au moins que tu n'as pas peur de moi. Elle avait prononcé ces mots d'une voix à peine audible, presque un souffle. Il posa la main sur la sienne. Tu me donnes du courage, Naya. Il marqua une légère hésitation avant de poursuivre. Et aussi de la joie. Je me sens bien en ta compagnie. Elle masqua son trouble d'une moue provocante.
Je suis pourtant pas une affaire, hein. J'ai de l'asthme, du psoriasis, je suis un sac d'os.
Je connais les plantes pour soigner l'asthme et le psoriasis, répondit-il.
Pour gonfler ton sac d'os, tu as juste à manger un peu plus.
Moi, je n'ai pas de tare apparente, enfin, pas pour l'instant. Mais les hommes de ma famille ont tendance à mourir d'un cancer foudroyant vers l'âge de 30 ans. Mon grand-père, mon père, 2 de mes oncles.
Il n'y a pas d'herbe pour soigner ça?
On n'a pas trouvé de remède. On ne peut pas lutter contre les particules radioactives apportées par les vents.
Ils naviguèrent tout le jour sans s'arrêter ni manger, ne prenant que 2 repas par jour, le premier au réveil, le deuxième à la tombée de la nuit. Quand le soleil plongea derrière les crêtes des reliefs, ils s'arrêtèrent sur une rive relativement dégagée. Les uns après les autres, les radeaux vinrent s'abouter pour former une gigantesque passerelle. Ils descendirent tous à terre, y compris les enfants, qui se mirent aussitôt à courir et à jouer entre les rochers sculptés par le vent. Tandis qu'une partie des hommes et des femmes partaient chasser dans les environs, d'autres entreprirent de pêcher à l'aide des pics transformés en harpons,
D'autres encore retirèrent leurs vêtements et se baignèrent dans l'eau froide et claire. La nudité ne semblait provoquer aucune gêne chez eux. Naya n'aurait jamais osé les imiter, trop complexée pour offrir son corps à leur regard, et moins encore au regard de Delune.
« On dirait des vers !» marmonna Kolb en les observant. « Tout rose, tout lisse. En tout cas, ces gars-là, ils seront jamais de mauvais poils !»
Le trappeur rit de sa propre plaisanterie. L'un des hommes sortit du fleuve et, avec un grand sourire, lui tendit une pique en l'invitant à le rejoindre. Kolb hocha la tête, se leva et entra dans l'eau avec ses chaussures et ses vêtements. Il préférait passer une mauvaise nuit dans des vêtements mouillés que de se montrer nu devant des inconnus. Lorsqu'il eut de l'eau jusqu'à la taille, il imita les autres, cessa de bouger et, la pique brandie au-dessus de lui, guetta le passage d'un poisson. L'attente ne dura pas longtemps. Sa pique s'abattit soudain et ressortit de l'eau avec une prise frétillante transpercée par le fer. Un silette, l'une de ces créatures mutantes qui avaient proliféré après la Grande Guerre, et dont la chair fade devait être relevée avec des épices et des herbes pour avoir un goût acceptable.
« Belle prise, Kolb !» s'écria Naya.
Une soixantaine de poissons furent ainsi capturés par les pêcheurs Bartlos. Les uns se chargèrent de les préparer, tandis que les autres allumaient des feux avec les réserves de bois accumulées au cours de leur périple. Hommes et femmes se partageaient les tâches. Contrairement aux agglomérations des bords de Seine, les Bartlos ne faisaient aucune différence entre les deux sexes. Des femmes pêchaient, chassaient, des hommes s'occupaient de la cuisine et des enfants. Les chasseurs revinrent avant la tombée de la nuit avec un tableau de 5 ragondins, 3 volatiles fauchés par les flèches, un cerf au bois rouge et 2 marcassins. Une partie du gibier et des poissons fut dépecée et mise à griller sur les braises. Une autre fut conservée pour le repas du lendemain. La minutie avec laquelle ils répartissaient les parts étonna leurs hôtes, peu habitués à un tel sens du partage. Comme il ne faisait pas très froid, Naya, elle, estimait l'air plutôt frais et accepta de bon cœur la veste que Delune lui proposa. Ils décidèrent de dormir à la Belle Étoile. Certains de ceux qui s'étaient baignés ne s'étaient pas rhabillés, évoluant dans la température de ce début d'automne comme sous la chaleur d'été. Ils mangèrent de bon appétit les morceaux de viande et de poisson accompagnés de petites baies rouges au goût délicieux. Puis, après avoir désigné les sentinelles et établi les tours de garde, ils s'installèrent pour la nuit, dormant pour la plupart à même le sol. La voix vibrante de Yosp résonna alors que les 4 invités venaient tout juste de s'allonger au milieu des Bartlos.
« Les heures me parlent !»«
Qu'est-ce qu'elles te disent ?» demanda Naya à voix basse.
« Elles me disent... Il faut pas rester là. Ils vont devenir méchants. C'est à cause de la nuit.
Où tu veux qu'on aille ?
Grogna Kolb.
Les heures me disent, il ne faut pas qu'ils nous voient. S'ils nous voient, ils nous tueront. Ils nous couperont en morceaux et les jetteront dans l'eau.
Allons nous installer plus loin, proposa Delune. Nous reviendrons à l'aube.
Je suis crevé, grommela Kolb. Y a pas de raison qu'ils se transforment en bêtes sauvages.
Reste si tu veux, nous partons. Delune était péremptoire. Il se leva, aussitôt imité par Naya et Yosp. Enjambant les corps allongés, ils se dirigèrent vers l'intérieur des terres. Le trappeur finit par leur emboîter le pas en ronchonnant. Une silhouette se dressa devant eux.
« Vous partez ?»
C'était Lislo, vêtu d'une tunique courte qui ne dissimulait pas grand-chose de son corps athlétique.
« Nous allons passer la nuit plus loin, » répondit Delune. « Nous reviendrons demain matin. »
Louvik est toujours désireux de parler avec vous des Teufel, des cavaliers. Demain. Elle hocha la tête après 5 ou 6 secondes de réflexion, s'effaça et cria quelques mots en allemand pour que les sentinelles les laissent passer. Ils s'éloignèrent rapidement dans la nuit, traversés par un vent sec, et marchèrent plusieurs kilomètres avant de bivouaquer près d'un bosquet d'arbustes maigres.
Je dis moi que c'est des fatigues pas très utiles,
grommela Kolb en s'allongeant.
« Ça nous évitera peut-être une mort inutile, » rétorqua Delune.
Dans le cœur de la nuit, une main vint secouer avec douceur l'épaule du guérisseur. Il ouvrit les yeux et discerna le visage de Naya au-dessus du sien. Elle posa l'index sur ses lèvres pour lui signifier de garder le silence. Puis, d'une pression des doigts, elle l'incita à se relever et à la suivre. Les ronflements de Yosp et de Kolb
les accompagnèrent un petit moment entre les rochers et les buissons.
« Qu'est-ce que tu... » Naya plaqua la main sur la bouche de Delune pour l'empêcher de parler.
Elle l'entraîna vers un lit de sable clair au pied d'un grand piton rocheux. Puis, tandis qu'il la fixait d'un air ébahi, elle se dévêtit, étala ses vêtements sur le sable et l'invita à la rejoindre. Il s'assit près d'elle, gauche, interdit, incapable d'esquisser le moindre geste. Elle l'embrassa avant de commencer à le déshabiller. Il l'aida à se défaire de ses chaussures et de son pantalon. Elle contempla un moment le corps blanc de Delune comme elle aurait admiré une œuvre d'art. Il était une œuvre d'art, harmonieux, parfaitement proportionné, avec des attaches fines et une peau d'une douceur inhabituelle chez un homme. Il tressaillit à chacun de ses effleurements. Il se laissa cajoler un long moment avant de la plaquer contre lui et de l'embrasser avec une fougue soudaine, comme un barrage se brisant sous la poussée de l'eau. Il la caressa à son tour. Sa paume et ses doigts épousèrent les moindres reliefs de sa peau avec un mélange de délicatesse et de force qui la ravirent. Puis, il l'étendit face à lui sur les vêtements, s'allongea sur elle et s'enfonça en elle avec une assurance étonnante pour un garçon qui n'avait jamais connu de femme. Elle éprouva de nouveau cette sensation enivrante de s'ouvrir comme une fleur et de répandre ses parfums dans la nuit.
« Moi, je dis qu'il s'est trompé pour une fois !» fulmina Kolb.
Il s'était levé à l'aube pour rebrousser chemin et avait trouvé, à leur arrivée sur la rive de Rhône, un campement paisible, serein. Pendant que les uns préparaient le repas, les autres se baignaient ou inspectaient les radeaux. Un rire joyeux s'échappa des lèvres de Naya. La prédiction de Yosp lui avait au moins permis de s'unir avec Delune et de vivre un moment merveilleux, le plus merveilleux, sans aucun doute, depuis sa naissance. Elle portait désormais sur le monde un regard de femme.
« Je vois pas ce que ça a de drôle !» gronda le trappeur. « Si Yosp perd la boule, nous, on perd notre vigie !»«
Je perds pas la boule !»
protesta Yosp.
« On peut pas dire autre chose, mon gars. Tu annonces que ces gars-là deviennent dingues au cours de la nuit, tu nous obliges à courir à l'autre bout de la terre, rien de ce que t'as dit ne s'est réalisé !»«
Comment peux-tu en être sûr ?» intervint Delune. « Nous n'étions pas là pour le voir. » « Yosp nous a sauvé la vie à plusieurs reprises, » renchérit Naya.
« Peut-être, mais je vous préviens, la prochaine fois, je bouge pas !»
Delune observa les Barthlos qui s'activaient autour des radeaux. Certains d'entre eux plongeaient sous les troncs liés entre eux pour examiner le dessous des embarcations. Ils restaient sous l'eau un temps qui révélait une étonnante capacité respiratoire. « Ce que je trouve étonnant, c'est leur réaction. » Naya se tourna vers Delune et contint tant bien que mal une envie folle de se jeter dans ses bras.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ils ne paraissent pas offusqués que nous nous soyons éloignés du campement, répondit-il. Ils ne nous reprochent rien, ne nous en parlent même pas, comme s'ils ne l'avaient pas remarqué. La plupart des clans auraient considéré notre attitude comme une insulte.
Ils viennent de loin, lança Kolb. Ils sont pas comme nous, voilà tout.
Ils remontèrent sur les radeaux après le repas du matin. Un vent violent rassemblait des nuages noirs et menaçants au-dessus du grand cours d'eau.
« Si les heures te parlent, Yosp, débrouille-toi pour nous avertir, d'accord ?»
murmura Delune à Yosp avant l'embarquement. Le petit homme acquiesça, d'un air grave. Les embarcations s'étirèrent en une longue file sur les eaux tumultueuses de Rhône. Louvik, torse nu, pria ses passagers de le rejoindre dans sa cabine en compagnie de Liselot. Ils s'assirent sur des coussins de peau garnis d'herbes odorantes. Aucune trace d'une quelconque couche. Comme si, lorsque le couple et leurs enfants dormaient dans le radeau, ils s'allongeaient directement sur les troncs. Une forte odeur de bois imprégnait l'air humide. Louvik adressa la parole en allemand à son épouse, puis, d'un geste de la main, l'invita à traduire. « Il veut savoir pourquoi vous pensez que nous n'avons pas d'autre choix que de combattre les Teufel.
Il nous faut les comprendre avant de les combattre, » répondit le guérisseur. « Savoir pourquoi ils nous exterminent de manière systématique. Pourquoi ils veulent effacer les hors-sites de la surface de la Terre, comprendre leur logique de manière à proposer une réponse appropriée.
Louvik écouta avec attention la traduction de Liselot avant de se lancer dans une longue tirade. Il dit que ça ne changera pas grand-chose de connaître leur motivation.
nous n'avons pas d'armes à leur opposer. De même, ils pensent qu'ils ne peuvent pas contrôler toute la surface de la Terre, que nous avons donc une bonne chance de leur échapper. Une fois dans le sud, nous trouverons un endroit bien caché où personne ne nous trouvera, et où nous pourrons fonder un grand peuple. « Ils vous trouveront, tôt ou tard, » affirma de Lune, « et vous extermineront comme les autres. Nous sommes inférieurs sur le plan des armes, mais les Teufel ont certainement des failles que nous pouvons exploiter. Nous... » Un grondement prolongé d'orage couvrit sa voix. Des cris s'élevèrent derrière eux. Une violente secousse ébranla le radeau. De Lune et les autres roulèrent sur les troncs et heurtèrent les cloisons. Ils parvinrent à se relever malgré les soubresauts et à se rendre sur le pont. Un spectacle dantesque les y attendait. La nuit semblait être tombée en plein jour. Des vagues énormes parcouraient le fleuve et charriaient des troncs d'arbres arrachés qui fusaient vers les radeaux comme de monstrueuses lances.